Bonjour à tous. On va peut-être juste fermer la porte, s'il vous plaît. J'espère que votre examen s'est bien passé. Visiblement, ça anime l'assemblée. Alors, aujourd'hui, on va enchaîner avec une petite présentation de potentielle application de la théorie des jeux dans le monde de l'énergie. Plus particulièrement à l'électricité, parce que pour ma part, donc, je travaille chez EDF en tant qu'ingénieur-chercheur, comme on dit là-bas, donc notamment sur des nouveaux systèmes. Vous entendez sûrement parler des thématiques du climat, peut-être aussi des liens que ça peut avoir avec la production de l'électricité. Et ça peut mener à un certain nombre de questions, notamment sur la façon dont on consomme l'électricité. Jusqu'à maintenant, c'était, disons, assez libre, un peu sans contrainte. Donc toute la partie production devait se contraindre à fournir ce que voulaient consommer les consommateurs. On va peut-être essayer de changer cette façon de faire, et ça amène des nouveautés, et pour certaines, qui peuvent être modélisées avec la théorie des jeux. Avant de rentrer dans cette partie de la présentation, juste petite annonce que m'a transmise votre chargée de cours. Apparemment, il y a des élèves qui pourraient être intéressés pour un projet de département, si on l'appelle bien comme ça, avec des outils de théorie des jeux et peut-être une application à l'énergie. Si c'est bien le cas et qu'il n'y a pas eu de problème de transmission, n'hésitez pas à le recontacter. Ça peut être des choses qui peuvent être co-encadrées avec EDF. Ça pourrait m'intéresser, donc n'hésitez pas à faire passer votre demande auprès de Bruno Zilioto. Voilà. Durant toute la présentation, n'hésitez pas à m'arrêter. Je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec les concepts que je vais présenter. Je reconnais quelques têtes. J'imagine que pour certains, vous allez revoir quelques bases que j'avais présentées dans d'autres cours. Mais pour les autres, n'hésitez pas à m'arrêter, que ce soit sur l'énergie, les maths. Le but, c'est que vous preniez ce qui vous intéresse de cette présentation pour, pourquoi pas, poursuivre avec des problèmes qui vous intéressent dans ce domaine, avec la théorie des jeux, l'énergie. Alors, en gros, on fera pas tout ça, mais ça dépend aussi de votre intérêt pour les différentes parties. Je vais commencer par essayer de vous donner quelques bases du monde du système électrique. Quels sont les fondamentaux, quelles sont les contraintes, un peu dans le système électrique traditionnel, qu'est-ce qui pourrait être amené à changer, et pourquoi ça pose de nouveaux problèmes qui s'apparentent à de la théorie des jeux. Ensuite, de manière plus enfin, de manière concrète, je vais essayer de vous expliquer pourquoi ça prend la forme d'un jeu et comment on peut définir des jeux dans le système électrique. Et je passerai pas mal de temps sur un premier exemple pour vous montrer des algorithmes qu'on peut déduire de certains jeux et qui permettent par exemple d'opérer de manière intelligente la consommation électrique de futurs consommateurs électriques. Voilà. Alors, pour commencer, ici vous avez un petit peu les bases à comprendre pour ensuite essayer d'en déduire toutes les contraintes qui se posent sur le système électrique. Vous avez, alors venant d'une plateforme où je vous conseille d'aller jeter un œil si vous êtes intéressé par ce qui se passe dans le système électrique, qui s'appelle Ecodomics. Donc c'est une plateforme qui est mise à disposition par RTE. Vous savez tous ce qui est RTE ou non? Alors c'est le réseau de transport d'électricité, donc c'est l'entité qui gère la partie transport de l'électricité en France. Donc le transport, c'est la haute tension. Vous avez historiquement trois gros opérateurs, même s'il y en a de nombreux qui rentrent dans ce jeu du système électrique. Vous avez EDF, donc qui au début était vraiment intégré avec toute la chaîne, donc production, transport avec la haute tension et distribution avec la moyenne et basse tension. Ça a été éclaté pour des questions en partie politiques. Donc EDF maintenant a le métier de produire et de fournir l'électricité, mais la partie réseau, donc il y a deux entités, donc c'est RTE pour la partie transport, haute tension, et vous avez Enedis qui était ERDF avant pour la partie distribution. Donc tout ça pour dire, ils mettent à disposition des données et vous avez en temps réel un certain nombre de choses qui se passent tous les jours sur le système électrique. Vous pouvez voir comment on produit l'électricité, à quel moment on consomme plus ou moins d'électricité. Et en particulier, vous pouvez sortir ce genre de courbe. Alors là, vous avez, je ne sais plus quel jour c'était, mais la consommation française, ben, si on voit, 28 mars 2018, le profil de consommation française. Donc ça vous permet de fixer un certain nombre de grandeurs. Ici, vous avez notamment l'ordre de grandeur en puissance. Donc deux choses. Vous avez un vecteur, donc c'est la courbe au-dessus de l'air. qui représente en puissance ce qu'a consommé la France ce 28 mars 2018. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais est-ce que vous avez en tête l'ordre de grandeur d'une puissance typique que peut consommer la France au mois de mars ou même en hiver? Et autre question, est-ce que vous savez quelle est la capacité de production maximale qu'a la France? Est-ce qu'on parle en quelle unité on parle déjà? On parle en gigawatts, tout à fait. Et après, combien de gigawatts? Est-ce que vous savez, par exemple, une centrale nucléaire, un réacteur nucléaire, c'est quel ordre de grandeur? 1 gigawatt, tout à fait. Ancienne génération, c'est plutôt 900 mégawatts. Nouvelle génération, on arrive à 1,2, 1,3 gigawatts. Et au total, du coup, ça donne une capacité en France qui est un peu plus de 100 gigawatts. Donc, sachant qu'il y a une partie des moyens de production qui sont arrêtés à certains moments. Il y a des opérations de maintenance, parfois il y a des changements aussi, on veut changer, ça peut être politique ou plus économique, on fait des changements de moyens de production. Donc l'ordre de grandeur, c'est 100 gigawatts. Une très grosse pointe, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'était plus de 110 gigawatts en février, pas dire de conneries, il me semble que c'était 2013. Donc c'est très très gros, 110 gigawatts, et là on était plutôt à 60 gigawatts. Voilà, donc vous aviez la pointe à ce niveau-là, 60, même un peu plus. Ça doit être 70 gigawatts. Ce qu'il faut voir, c'est que là, le profil, c'est une puissance. Et ce que vous avez en dessous, l'air sous la courbe, c'est l'énergie totale consommée par les Français ce 28 mars 2018. Et en gros, alors pour faire simple, aujourd'hui, on n'a pas trop de problèmes d'énergie. Fournir l'énergie que veulent consommer les Français, il y a aucun souci. Vous voyez que, surtout en mars, comme on dispose de 100 gigawatts de capacité de production, on pourrait produire 24 heures fois 100 gigawatts. Pas exactement, parce que c'est des moyens qui ne peuvent pas produire toute la journée, mais il y a de la marge, en tout cas ce 28 mars. Mais ce qui peut poser problème, c'est la puissance. Typiquement, en hiver, quand il fait froid, et notamment en France, vous avez beaucoup de chauffage électrique, on est très thermosensible, comme on dit, il va y avoir un gros pic le soir qui peut atteindre en février 2013 plus de 110 gigawatts. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut être capable d'activer tous les moyens de production pour répondre très ponctuellement, sur une période qui peut faire une heure, à un besoin de consommation. Donc ça, c'est un message que vous pouvez garder déjà. En termes d'énergie, il n'y a pas trop de soucis. En termes de puissance, ça peut être plus difficile. Voilà. Alors, d'autres aspects que vous pouvez voir sur ce site qui peuvent être intéressants par rapport peut-être aux outils qui vous intéressent, c'est que vous avez notamment les prévisions versus le réalisé. Donc vous pouvez voir comment les opérateurs comme RTE avait prévu cette courbe de consommation la veille, par exemple, et voir. Vous l'avez là, par exemple. Donc, vous avez en bleu clair, vous avez la prévision en bleu foncé. Non, pardon. Vous avez prévision J-1 en bleu foncé, la reprévision en intraday, comme on dit, en bleu clair. Donc, elles sont relativement proches. Et en rouge, vous avez le réalisé. Donc là, ça peut sembler dérisoire l'écart qu'il y a entre ces courbes. Parfois, ça veut dire, ici, si on regarde dans le détail, ça peut vouloir dire quelques centaines de mégawatts. C'est pas forcément anodin si les moyens de production étaient pas, on n'avait pas prévu de les activer, quoi. Donc c'est, y a des enjeux autour de la data, pour faire simple, les prévisions de ces consommations électriques pour arriver à avoir des prises de décision facilitées sur les moyens de production. C'est clair pour vous? Juste énergie et puissance. Voilà. Alors, ça amène à un problème fondamental du système électrique qu'on appelle unit commitment, qui veut dire planification des centrales en français. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce type de formalisme, mais en gros, l'idée, c'est que vous êtes un opérateur d'un parc de production. Vous avez un certain nombre de centrales de production à votre disposition. Ici, les centrales de production, elles sont indiquées par I. Et votre but, c'est d'assurer une demande en électricité, donc par exemple la demande française. Ici, vous voyez que pour tout instant, quand vous faites la somme de ces variables, donc PIT, c'est ce que produit la centrale I à l'instant T. Donc sur l'ensemble des centrales, vous devez satisfaire une demande. Il manque un petit T ici, excusez-moi. Donc vous devez satisfaire à chaque instant la demande. C'est une contrainte fondamentale. Et c'est ce que je disais un petit peu en introduction. Jusqu'à maintenant, on se dit, on va pas s'autoriser du tout à déformer la demande. Elle est fixée, les gens consomment l'électricité comme ils veulent. Mais en revanche, du côté production, on va devoir assurer cette demande. Donc c'est une contrainte forte. Vous avez aussi, ce qui est un peu caché dans cet ensemble, un certain nombre de contraintes qui concernent les différents moyens de production. Typiquement, pour un moyen de production nucléaire, vous ne pouvez pas passer de une puissance max 1,2 gigawatts à la moitié de sa puissance max en 2 minutes. C'est impossible. Physiquement, il y a plein de contraintes qui s'appellent dans ce cas-là des contraintes de rampe. Vous avez des contraintes de gamme de puissance que vous pouvez atteindre. Tout ça, ça fait que ça contraint un petit peu les décisions que vous pouvez prendre sur votre parc de production. Donc vous avez contrainte sur le parc de production, la contrainte forte de la demande, et ce que vous voulez faire en tant qu'opérateur du parc, c'est minimiser le coût de production pour assurer la demande. Donc vous avez un objectif là-haut, qui est une somme sur les moyens de production et sur les pas de temps d'un coût de production, donc là qui est noté de manière assez abstraite, mais une fonction pour produire pour la centrale I une quantité PIT. Donc ça, c'est vraiment le problème fondamental que se posent des acteurs comme EDF, par exemple, quand ils vont proposer sur les marchés, ce que je vais expliquer après, de produire le lendemain, par exemple. Juste une remarque en termes de méthodo, ça veut dire que là, vous venez, alors je sais pas si ça vous dit quelque chose, des contraintes couplantes, est-ce que ça vous parle ou pas du tout? C'est pas un terme, non. Alors l'idée, c'est que si vous oubliez cette contrainte, vous voyez que vous pouvez séparer là-haut tous les objectifs par centrale. Donc vous avez le coût d'une centrale, c'est la somme sur T de la fonction de production IPIT. Ici, ces contraintes, c'est pas bien écrit là, mais c'est séparable, c'est-à-dire que vous avez des contraintes propres à chaque centrale. En revanche, là, si vous voulez satisfaire cette contrainte sur la demande, quand vous êtes vous gestionnaire de la centrale I, il faut connaître ce que vont produire les autres centrales. Donc ça veut dire que c'est couplant parce qu'on ne peut pas séparer ce problème-là en un problème par centrale. Donc ça, d'un point de vue méthodologique, ça veut dire que ce genre de problème va être beaucoup plus gros parce que vous êtes obligé de le considérer dans son intégralité. Vous ne pouvez pas le couper en grands problèmes par centrale. Et ça mène alors à tout un tas de développements théoriques pour essayer quand même de faire ce qu'on appelle distribuer. Donc, je sais pas, l'optimisation distribuée, est-ce que aussi c'est des termes que vous avez pu voir passer ou non plus? Non. Bah, du coup, alors, pour faire très simple, l'optimisation distribuée, le but, c'est que vous avez un très gros problème qu'on ne sait pas résoudre efficacement frontalement, comme on dit. Donc, vous allez essayer de le couper en sous-problèmes, de résoudre des sous-problèmes et d'essayer de les coordonner avec, alors ça peut être des informations que vous transmettez d'un sous-problème à l'autre pour qu'ils arrivent à une solution qui est bonne collectivement. Donc ça, c'est un peu l'idée de l'optimisation distribuée, qu'on applique notamment dans ce cas-là, parce que le problème est trop gros. Vous avez des centaines de centrales, ça fait un problème qui explose en taille. Voilà, alors juste d'un point de vue plus pratique, ce problème est généralement résolu à J-1. Alors c'était le cas historiquement quand EDF gérait l'ensemble de la chaîne, c'est le cas toujours aujourd'hui. On va le voir, vous avez des marchés en gros où vous devez faire des offres à J-1. Et des marchés où vous pouvez faire des offres en infrajournalier. Donc, pour faire une offre à J-1, la plupart des acteurs, ils écrivent un problème d'optimisation où ils essaient de mettre la version la plus précise qu'ils ont de leurs contraintes. Ils en déduisent des décisions et notamment des blocs de production qu'ils peuvent proposer sur le marché. Donc, ça veut dire qu'ici, vous avez des prévisions. Là aussi, si c'est des sujets qui vous intéressent, clairement, ils ont le vent en poupe parce que dans tous ces problèmes, il faut des prévisions qui sont les plus précises possibles. Il y a des nouvelles données qui interviennent, et donc on remet en cause les façons traditionnelles d'obtenir ces prévisions. Voilà, donc c'est ce que je discutais déjà. C'est un problème centralisé parce que ici vous avez un seul acteur qui est responsable de toutes les centrales, mais parfois on va le distribuer, le découper en sous-problèmes, juste pour le résoudre plus efficacement numériquement. Voilà, alors ce problème, pour faire simple, il va mener à ce type de solutions, qui sont assez intuitives en fait. L'idée ici, c'est que vous voyez ce qu'on appelle l'empilement des moyens de production. C'est-à-dire qu'on va appeler de manière croissante les moyens de production selon leurs coûts marginaux de production. Donc c'est très intuitif, c'est-à-dire qu'ici, vous voyez, c'est le cas français. Vous avez le nucléaire qui, en termes de coût marginal, est ce qu'on fait de mieux en dehors des énergies renouvelables comme l'éolien, le solaire. Donc vous allez l'appeler en premier pour satisfaire une demande à un instant donné. Donc ce que vous avez en ordonnée, c'est la demande en fonction du temps. Donc là, on ne voit pas bien les temps, mais vous avez typiquement une courbe comme celle qu'on a vue il y a 2 slides. Et donc vous devez la satisfaire avec vos moyens de production. Ce qui va se passer, c'est que vous mettez le moyen de production au coût marginal le plus faible en premier, et vous augmentez ainsi de suite les moyens de production. Alors, ici, vous pouvez voir peut-être quelque chose qui peut sembler comme une anomalie, par exemple faire passer l'éolien et le solaire après le nucléaire. Là, on peut voir justement certains effets d'inertie de certains moyens de production. Donc, ça veut dire que quand vous avez lancé un moyen comme le nucléaire, ça peut coûter très cher de l'arrêter. Donc, on va continuer à le faire tourner, même si vous regardiez le coût à un instant donné du gigawatt produit par votre parc éolien et le gigawatt produit par votre parc nucléaire, l'éolien dans les modèles c'est quasiment zéro parce que le vent, ça, la source primaire de cette énergie coûte zéro. Donc on aurait pu les faire passer en dessous. Et après, alors tout en haut de cet empilement des moyens de production, vous voyez la partie hydraulique. Alors ça, c'est aussi une force du système électrique français. On a beaucoup de barrages, notamment dans les montagnes. Et ça sert à faire la dentelle de la courbe, donc à assurer les petites variations qu'on n'a pas forcément bien prévues. Et notamment, vous avez des systèmes qu'on appelle les STEP. Donc c'est des stations de turbinage-pompage, dont le principe est très simple. Vous avez deux lacs, un lac haut, un lac bas. Et l'idée, c'est que quand l'électricité est très peu chère, vous allez acheter de l'électricité pour pomper, remonter de l'eau vers le lac haut. Et quand l'électricité est chère, vous allez avoir envie de vendre, donc vous allez turbiner en faisant couler l'eau du lac haut vers le lac bas. Et donc là, vous produisez de l'électricité, vous allez être rémunéré pour ça. Donc c'est une flexibilité qui est très importante et qui est aujourd'hui le moyen le plus important qu'on utilise pour faire la pointe, comme on dit. Donc ici, la pointe a été faite avec de l'hydraulique. Alors, on peut se rendre compte que typiquement, les pays qui n'ont pas de moyens de production hydraulique, ils peuvent être coincés à certains moments. C'est le cas par exemple de l'Italie, où souvent la Suisse joue un jeu pas très sympathique avec l'Italie. En Suisse, vous avez des moyens de production hydraulique qui sont très importants. Il y a un peu les mêmes avantages géographiques et topologiques qu'en France. Et typiquement, les Suisses vont vendre très cher cette flexibilité hydraulique pour assurer la pointe italienne, sachant très bien que leurs voisins italiens n'ont pas les moyens d'avoir cette flexibilité à la pointe via l'hydraulique. Donc ça, typiquement, c'est la solution qu'on voit au problème présenté juste avant et qui est tout à fait intuitive. Alors, ça permet de faire un parallèle avec certains sujets qu'on entend aujourd'hui autour du renouvelable. Ici, donc vous avez les axes se sont renversés, mais l'idée est la même. Vous avez le cas allemand. Alors, vous pouvez voir que vous retrouvez des moyens, le fuel. Ici, vous avez un certain nombre de moyens de production, lignite, etc. Et on est venu ajouter un bloc renouvelable important suite à la sortie de l'Allemagne du nucléaire. Donc ça, vous pouvez voir que ça remet complètement en cause cette logique d'empilement des moyens de production. Ce que ça veut dire, c'est que là, vous avez ce qui symbolise la demande à un instant donné. Donc tout ce qui est à gauche, ça a été retenu pour satisfaire la demande. Tous ces moyens de production vont tourner. Les moyens de production à droite ne vont pas être utilisés. Donc si vous décalez cet empilement avec une quantité relativement conséquente de renouvelables, ça veut dire que ces moyens de production, ils sont appelés très rarement. Ça veut dire, et c'est ce qu'on observe aujourd'hui en Allemagne, qu'une partie des moyens de production qui étaient utilisés avant pour faire la pointe notamment, sont plus du tout utilisés, sont plus rentables et ferment. Donc là, vous voyez directement l'impact d'une décision structurante comme l'intégration de beaucoup plus de renouvelables sur le système. Ça pose quand même une question, c'est que le renouvelable, ce n'est pas un moyen qui est activable comme une centrale à charbon, par exemple. Donc là, il y a des enjeux, encore une fois, de prévision. Il faut savoir qu'est-ce que le vent va nous permettre de produire demain. Et donc là, il y a aussi des enjeux, parce que si, à cause des grandes incertitudes qu'on a de la veille pour le lendemain, on est obligé de garder ces moyens de production ouverts au cas où, si nos prévisions sont trop mauvaises, clairement, il y a un enjeu là-dessus. Après, il y a d'autres solutions qu'on va discuter après. Voilà. Alors, un autre point fondamental dans les problèmes du système électrique, c'est qu'il y a un réseau. Donc là, j'ai parlé essentiellement demande et production, mais entre les deux, il faut l'acheminer, et c'est aussi une question compliquée. Et pour faire schématique, ici, vous avez la partie terminale des réseaux électriques. Donc c'est ceux qu'on appelle les réseaux de distribution. Typiquement, la porte d'entrée, c'est ce qu'on symbolise par ces deux anneaux, c'est un transformateur. Donc un transformateur, il va abaisser votre tension d'un niveau haut à un niveau plus bas. Et derrière, vous avez un certain nombre de départs, comme on appelle. Donc vous avez ici trois départs, et qui regroupent des consommateurs le long d'une ligne. Alors ces lignes, elles peuvent être souterraines, invisibles dans les villes, elles peuvent être les lignes que vous voyez à la campagne. Ce qu'il faut voir, c'est que là, quelque part, ces cinq maisons, elles partagent une contrainte. On ne peut pas, à un moment donné, consommer plus sur ces cinq maisons que ce qui est capable de passer dans le réseau à cet endroit. Donc là aussi, il y a un peu deux solutions. Soit on se dit, bah, on est capable d'investir dans un réseau qui a une capacité tellement importante que ces gens-là ne se posent aucune question. Ils peuvent consommer tant qu'ils veulent, rajouter tous les usages qu'ils veulent chez eux, ce qui est un peu ce qui est fait de manière générale aujourd'hui. Ou alors on se dit, ces investissements dans les réseaux coûtent cher, on est en droit de demander une sorte de flexibilité de la consommation. Donc ça veut dire que si à un moment, les cinq consommateurs ici consomment beaucoup trop, il y a des moyens pour les inciter et les rémunérer pour ça, à diminuer une partie de leur consommation. Voilà, tout ça. Il y a d'autres enjeux autour des réseaux dans lesquels je ne vais pas rentrer en détail, sauf si c'est des points qui vous intéressent particulièrement. Mais tout ça pour dire qu'entre la production et la consommation, il y a des contraintes, et elles existent pour de vrai, elles sont la raison d'un certain nombre d'activités, notamment RTE, Enedis, etc. Voilà, c'est aussi le cas à l'échelle européenne. Alors là, ça rejoint des questions stratégique de la plaque européenne, parce que vous savez peut-être qu'on partage le réseau de transport d'électricité à l'échelle européenne. Donc ça veut dire ce qui se passe aujourd'hui que quand typiquement l'Italie, comme je disais tout à l'heure, a pas assez d'électricité pour satisfaire sa demande à un moment donné, a pas la capacité de la produire dans son pays, il y a des interconnexions avec la Suisse, avec la France, avec la Slovénie pour lui permettre d'assurer la demande. Donc ça veut dire qu'on partage cette responsabilité d'assurer la demande d'électricité. Mais ça veut dire aussi que ces investissements dans plus de réseaux ou plus de flexibilité de la consommation, il faut les faire de manière concertée à l'échelle des différents pays. Donc là, il y a énormément de débats à l'échelle de l'Union européenne, aussi à l'échelle d'un certain nombre de bureaux des gestionnaires de réseaux de transport pour avoir des bonnes règles pour se partager cette responsabilité. Voilà. Est-ce que le contexte est à peu près clair pour vous? C'était complètement neuf pour vous? Il y a quand même des choses qui vous parlent, j'imagine? Si vous avez d'autres questions sur ce, ou vous pouvez les poser maintenant. Sinon, je bascule vers la partie plus formalisme en tant que jeu. Comment on y arrive? Voilà. C'est bon? Pas trop d'interrogations pour l'instant? Très bien. Alors, déjà, juste pour vous faire comprendre pourquoi on décentralise. Alors, j'ai mentionné quelques raisons à travers de la présentation du contexte. Mais typiquement, il y a le fait qu'il y a plus de renouvelables. De manière générale, ça crée plus d'incertitudes. Donc on va avoir des besoins de plus de flexibilité pour équilibrer production, consommation. Donc si on veut de la flexibilité, ça veut dire souvent qu'il va y avoir de nouveaux acteurs. Les nouveaux acteurs, alors ils peuvent être très nombreux, là je vous ai mis un panorama général, mais ce qu'on voit arriver notamment, c'est les marchés. Il y a maintenant 25 ans, il n'y avait quasiment aucun marché d'électricité sur la plaque européenne. Donc ça veut dire que vous aviez des gros opérateurs, souvent nationaux, qui géraient l'équilibre production-consommation à l'échelle de leur pays. Maintenant, on a décidé de pousser vers plus d'échanges dans le système électrique, et ces échanges, notamment, ils se font au travers des marchés. Donc ça veut dire que vous avez les acteurs traditionnels, plus des nouveaux acteurs, qui vont échanger des blocs de production d'électricité et des blocs de consommation d'électricité sur les marchés. Vous avez aussi, donc, là, c'est les producteurs un peu traditionnels, EDF, les gros, qu'on voyait depuis un certain temps dans ce système. Vous avez maintenant un certain nombre de nouveaux producteurs. Vous avez peut-être vu que, par exemple, des Total sont producteurs. Et ça peut être assez souvent aussi des producteurs locaux de production renouvelable. Des villes peuvent produire de l'électricité. Donc ça veut dire qu'il faut intégrer tous ces nouveaux acteurs à l'équilibre production-consommation. Souvent, ça a créé aussi des métiers de trader, parce que maintenant, vous n'êtes plus obligé de posséder un moyen de production pour pouvoir vendre de l'électricité. Vous pouvez seulement aller acheter des blocs sur les marchés de l'électricité et les revendre à des gros consommateurs ou à des consommateurs particuliers, comme on est tous. Et alors, juste au niveau des consommateurs, je voulais mettre l'accent sur un petit point, c'est que traditionnellement, vous aviez, et c'est encore quasi exclusivement le cas aujourd'hui, que des consommateurs qu'on appelle non flexibles. C'est-à-dire qui ont une demande figée, qui vont pas changer leurs habitudes de consommation électrique pour des informations ou des incitations qu'ils recevraient du système électrique. Donc j'ai une façon de consommer, je mange à telle heure, je fais ma lessive à telle heure et je la change pas. On vient de plus en plus dans certains systèmes à penser une flexibilité de la consommation. Donc ça veut dire typiquement des usages pour lesquels ça représente pas un effort démesuré de déplacer la consommation. Je pense à la machine à laver, au lave-vaisselle, aux véhicules électriques qui commencent à arriver. On peut, avec des moyens relativement simples, décaler leur consommation pendant la nuit ou un petit peu baisser la puissance de consommation à certains instants. Donc c'est ce qu'on appelle être flexible. On voit aussi à l'échelle des consommateurs particuliers venir des moyens de production très locaux. Donc des gens qui mettent un panneau de production photovoltaïque sur leur toit, par exemple. C'est des nouveaux acteurs qu'on ne voyait pas il y a 10-15 ans dans le système. Et clairement, ils posent un grand nombre de questions à tous les acteurs qui sont sur les couches supérieures. Juste un petit commentaire sur les couches supérieures. Il y a des enjeux d'investissement qui sont importants au niveau des réseaux, je les ai déjà mentionnés, mais encore la couche supérieure, les législateurs, les régulateurs qui doivent impulser des bonnes règles pour que le système fonctionne correctement, ça pose aussi tout un tas de questions de voir arriver ces nouveaux mécanismes et ces nouveaux acteurs. Donc là aussi, je ne sais pas si la CRE, ça vous dit quelque chose ou non, c'est la Commission de régulation de l'énergie. Donc c'est l'entité qui en France doit fixer des bonnes règles pour que le système se comporte correctement. Donc ils sont chargés d'être un peu une interface entre le monde politique et les acteurs du système énergétique en France pour arriver à une bonne définition des règles qui concilient tout ce qu'on veut mettre sur la table d'un point de vue politique, mais aussi des enjeux parfois économiques et industriels des acteurs comme EDF, RTE et consorts. Voilà. Alors, juste pour vous dire, là aussi, il y a des données intéressantes sur Ecodomix. Vous pouvez voir notamment en ce qui concerne les marchés, ce qui se passe, mais aussi en termes d'échanges. On en parlait tout à l'heure, mais vous avez une photo ici à un instant donné. C'était le 6 novembre l'an dernier. Vous voyez que là, on parle en mégawatts. Il y a quand même 3 gigas qui ont été fournis par l'Espagne à la France. Donc on est en novembre. Peut-être que ça fait à peu près 3% de la consommation française. Donc quand vous sommez les échanges, ça peut faire une partie conséquente. Et donc si. Un petit calcul, là on est en net, on est à peu près à 1, 3, 4, 7, moins 1, 6. On reçoit 6 gigawatts. Est-ce que vous savez quelle est la puissance maximale qu'un foyer peut consommer à peu près en France? Quel est le contrat ou le contrat que vous avez, je ne sais pas, dans vos résidences étudiantes ou chez vos parents ou... On parle en quelle unité déjà? Kilowatts, on parle en kilowatts. 6, ouais. 6 kVA, c'est un contrat typique. Si vous n'avez pas une grande maison, 6 kVA, c'est courant. Donc là, ça veut dire qu'on était. kVA et kilowatts, c'est à peu près pareil. Je n'entrerai pas dans les détails, mais c'est question de puissance active ou réactive. Mais on va dire que c'est la même chose ici. Donc c'est-à-dire que ici, si je calcule bien, ça satisfait 1 million de Français, ce qu'on reçoit des autres pays européens. Donc si à ce moment-là, il n'y avait pas ce système de partage à l'échelle européenne, 1 million de Français aurait dû couper la consommation ou on aurait dû se partager une baisse de consommation à l'échelle de la France parce qu'on n'avait pas la capacité ou alors ça coûtait trop cher à ce moment de produire. Alors, autre aspect qui pousse vers un système plus décentralisé, je l'ai mentionné tout à l'heure, les marchés. Donc si vous allez sur cette fois-ci Epexpot, vous pouvez trouver alors tous les acteurs, c'est public, qui ont des actions sur les marchés de l'électricité. Alors, vous trouvez un grand nombre de membres, c'est assez impressionnant et ça augmente assez vite. Donc vous avez les producteurs traditionnels, vous retrouvez naturellement EDF. Vous retrouvez alors les gestionnaires des réseaux. Alors ça peut paraître étonnant, mais en fait, les réseaux, ça génère des pertes. C'est les pertes joules typiquement. Et en France, les pertes, c'est le plus gros consommateur français. Donc plus que la SNCF, que les gros industriels, que l'ensemble des Français, les pertes, c'est énorme. Donc ça veut dire que ces gens-là, gestionnaires de réseaux, sont obligés d'aller acheter ces pertes sur les marchés. Ils ont la responsabilité de ces pertes, on sait qu'elles existent, ils vont les payer sur les marchés, parce qu'elles sont rentrées à l'intérieur du réseau. Vous avez, alors ça c'est relativement récent quand même, mais vous voyez sur ces marchés des gros industriels. Ça veut dire que, par exemple, là vous avez OBB, Deutsche Bahn. Ça, c'est les gros consommateurs, on les appelle consommateurs industriels intensifs. Des lignes grande vitesse électrique, ça consomme énormément d'électricité. Ces acteurs-là, ils ont grosso modo deux possibilités. Soit ils délèguent à un opérateur du monde de l'électricité l'achat d'électricité et ils leur achètent ces volumes. Mais souvent, ça veut dire qu'il y a une commission au passage hein, sur celui qui fait l'interface entre le marché et Deutsche Bahn. Ils ont une autre possibilité, c'est de s'intéresser plus particulièrement à la façon dont les marchés fonctionnent et d'aller acheter directement sur les marchés l'électricité qu'ils consomment. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus. ces acteurs-là, mais aussi des gros industriels de l'aluminium, par exemple, vont acheter directement leurs besoins en électricité sur les marchés. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des nouveaux métiers dans ces boîtes, des gens qui connaissent très bien le marché de l'électricité, aussi bien que les gens chez EDF et consorts. Vous avez aussi des nouveaux fournisseurs. Vous avez peut-être vu que Total fournit maintenant d'électricité. Vous pouvez leur acheter l'électricité. C'est le cas bien sûr d'Engie, mais qui est plus du monde de l'énergie. C'est le cas aussi de Cdiscount, que vous avez peut-être vu passer dans les offres. Donc c'est des nouveaux acteurs qui, pour vendre de l'électricité au consommateur final, ont besoin de l'acheter au préalable sur les marchés. Donc ils font des actions sur ces marchés. Et alors vous avez aussi des traders purs, parfois déguisés sous des noms pour pas qu'on les reconnaisse tout de suite, mais vous avez Goldman Sachs par exemple, Merrill Lynch, des gens qui, des entités qui prennent juste des positions sur les marchés, qui parfois fournissent aucun service final, mais achètent des blocs d'énergie, les revendent et font des plus-values sur les marchés d'électricité. Donc ça existe, et du coup ça veut dire que même si je connais pas ces détails-là, clairement si ça vous intéresse, il y a des collègues qui travaillent vraiment là-dessus chez EDF. Il y a vraiment des métiers de pur trader sur les plateformes, les marchés d'électricité. Voilà. Et vous avez aussi des communes qui vont aussi maintenant acheter l'électricité pour gérer l'éclairage dans la ville, pour gérer tous les usages de l'énergie dans la ville. Et ça peut être lié à des questions d'efficacité énergétique que vous avez peut-être vu passer. Et je vais conclure sur ces acteurs de marché par ceux qui vont correspondre au modèle qu'on va voir juste après, c'est la flexibilité de consommation. Donc là, l'idée, c'est que si vous avez un pool de 1 million de Français, que vous leur demandez de baisser de 50% leur consommation, on a dit que ça fait à peu près 3 kilowatts, on arrive à 3 gigawatts, vous avez une baisse de consommation de 3 gigawatts. Virtuellement, tout se passe comme si vous produisiez 3 gigawatts. Si vous êtes capable de baisser de 3 gigawatts la consommation de votre ensemble de consommateurs, vu du système de l'égalité production-consommation, c'est comme si vous produisiez. Donc ça, vous pouvez le vendre sur un marché. Alors après, il y a des règles, il faut pouvoir le garantir, c'est-à-dire que si vous dites demain, je baisse de 3 gigawatts à 19h et que les consommateurs que vous avez dans votre pool ne le permettent pas, il y a des systèmes de pénalité, donc vous allez payer cher le fait que vous n'avez pas su activer cette production virtuelle. Mais en tout cas, du point de vue du système, ça se passe comme une production. Donc vous pouvez la vendre sur les marchés. Et donc vous trouvez ce genre d'acteurs, notamment Voltalis, que vous avez peut-être vu passer en France, qui est un des premiers à avoir proposé ça en France. Donc ça s'appelle aussi effacement. Donc on agrège l'effacement de consommation d'un certain nombre de petits consommateurs, comme les consommateurs particuliers. Voilà. Je vais passer sur ça, mais vous avez un petit peu les mêmes informations sur les sites de RTE. J'en viens à ce qu'on appelle donc la flexibilité de consommation. Donc ça va mener à un modèle de jeu. Bon, petite provocation pour montrer que quand même, dans le monde de l'électricité, on a toute une histoire de passivité des consommateurs, au sens où on ne se pose pas trop de questions, on regarde à la limite la valeur qu'il y a sur la facture à la fin de l'année. Mais la façon de déplacer les usages, combien consomme tel usage par rapport à tel autre. Est-ce que par exemple, quelqu'un sait l'usage domestique qui consomme le plus à la maison en termes d'électricité, que ce soit en puissance ou en énergie? Le chauffage? Ouais, le chauffage, ça consomme beaucoup. En termes de puissance, vous pouvez être, ça dépend de combien de convecteurs électriques vous avez, mais vous pouvez être à quelques kilowatts. Ouais. En dehors du chauffage, vous savez, la machine à laver, c'est pas énorme en fait. En termes de puissance, j'ai pas l'ordre de grandeur exact, mais c'est à mon avis pas plus de quelques centaines de watts. Peut-être 600, 700, 700 watts. Le frigo, alors le frigo c'est intéressant parce que ça, en gros, et c'est assez marrant parce que quand vous regardez par exemple la finale d'une Coupe du Monde, à la mi-temps, vous voyez très clairement sur les courbes de consommation ce qui se passe avec le frigo. Donc quand tous les Français ouvrent le frigo, là, il se passe pas grand-chose, mais enfin, ils prennent la bière, mais quand vous refermez le frigo, ce qui se passe, c'est que le frigo va consommer beaucoup d'électricité pour redescendre la température à un niveau nominal qui est défini. Donc, le frigo, vous voyez des espèces de petits pics de consommation qui correspondent à une ouverture de porte, par exemple, qui peuvent être importants, mais très courts dans le temps. Donc, souvent, c'est pas cet usage-là qu'on met en tête de liste des postes de consommation. C'est plutôt les plaques de cuisson, notamment l'induction. L'induction, vous pouvez être à 1 kW par feu. Donc, si vous vous rappelez les 6 kilowatts à l'échelle d'un foyer, si vous avez 4 feux, que vous les mettez tous ensemble et que vous mettez la machine à laver et le four, il est possible que là, il y ait des petits soucis. Voilà. Donc, c'est juste pour vous donner des ordres de grandeur. On va en parler après. Est-ce que vous savez, les véhicules électriques, on commence à les voir arriver. C'est quoi la puissance d'un véhicule électrique? Indication, c'est plus gros que tout ce dont on a parlé pour l'instant à la maison. Alors, 50 kW, c'est de la charge qu'on appelle rapide. Donc, vous voyez tout de suite l'écart entre 50 kW et votre abonnement 6 kW. Donc là, ça pose des questions. Est-ce qu'on le met dans l'abonnement tout de suite? C'est pas possible, alors il faut changer d'abonnement. Mais en tout cas, c'est ce qui est poussé pour la charge sur l'infrastructure publique. Donc, vous avez peut-être vu sur les autoroutes, il y a un réseau qui s'appelle Corridor, qui commence à permettre la charge rapide quand vous allez en week-end en véhicule électrique ou même en vacances. Et là, on est sur l'ordre de grandeur de 50 kW. À la maison, c'est plutôt ce qu'on appelle la charge lente, et vous êtes autour de 3 kW. Il y a des gens qui poussent pour qu'on ait plutôt du 7 kW à la maison. Donc vous voyez directement que si vous rajoutez 3 kW sur vos plaques de cuisson, vous êtes au-dessus de l'abonnement. Donc vous vous posez la question de changer l'abonnement. Donc ça pose des questions. C'est important, donc le véhicule électrique en termes de puissance. Voilà. Alors, juste pour dire qu'il y a cette histoire d'un peu de passivité. Donc là, il y a tout un enjeu à convaincre les gens que ça peut être intéressant financièrement, mais pas que, de changer un petit peu la façon dont ils consomment l'électricité. Donc ça peut être gagner l'équivalent de 1 ou 2 € par jour, pas sûr que ça convainque tout le monde. Ça peut être aussi participer à un système électrique où la production est moins carbonée, par exemple. Vous envoyez des incitations aux gens qui leur montrent un petit peu à quel moment c'est leur consommation sera carbonée, parce que la production l'est à ce moment-là, pour les inciter éventuellement à consommer à des moments où la production est décarbonée et pour participer peut-être à l'effort français sur le réchauffement climatique, par exemple. Donc ça, c'est pas évident parce que déjà les gens n'ont pas forcément les ordres de grandeur en tête. Ça peut en pratique demander des efforts conséquents. Décaler certains usages, ça peut demander. Si le véhicule électrique, il faut aller le brancher, appuyer sur un bouton et qu'on demande de le faire pendant la nuit, clairement, ce n'est pas possible. Mais en tout cas, c'est vraiment le combat actuel de ces nouveaux sujets. Voilà, alors maintenant, on va passer avec la version modèle de cette histoire, à savoir qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour un consommateur d'être flexible dans le système électrique. Alors, la première chose, ça veut dire que, a priori, au début de l'année, vous signerez pas le contrat de base de la fourniture d'électricité EDF, par exemple. Est-ce que vous savez quels sont les deux contrats principalement historiques pour consommer l'électricité? Combien coûte un kilowattheure en France? Vous payez combien à peu près on parle d'euros, on parle de 15 centimes, ouais. 15 centimes. En gros, vous avez donc deux contrats, soit c'est un prix fixe tout le temps, quelle que soit la saison, l'heure de la journée. Donc là, c'est zéro incitation. Quel que soit le moment où vous consommez, ce sera le même prix. Et là, l'ordre de grandeur, c'est 13 ou 14 centimes d'euros, il me semble. Et après, vous avez heure pleine, heure creuse. Donc là, vous avez deux postes horaires. Typiquement, pendant la nuit, entre 22 h et 4 ou 5 heures, ça vous coûte plutôt 10 ou 11 centimes d'euros. Et en dehors de cette période nocturne, ça vous coûte plutôt 15 centimes d'euros. Donc là, l'idée, c'est d'inciter les gens à basculer une partie de leur consommation pendant la nuit. Voilà, donc ça, c'est deux contrats historiques. Pour aller vers de la flexibilité, ça nécessite des nouveaux contrats. Donc ça veut dire, est-ce que les gens vont bien vouloir signer un contrat où potentiellement, s'ils sont flexibles, ils vont toucher de l'argent, on va les rémunérer pour avoir décalé une partie de leurs usages. S'ils ne sont pas flexibles du tout, potentiellement, ils vont perdre de l'argent. Et ça a été le cas. Alors il y a déjà eu, peut-être que certains de vos parents ont eu le contrat qu'on appelait EJP Tempo ou Bleu Blanc Rouge. Si vous savez ouais, ce que c'est. En gros, l'idée, c'est que vous avez trois postes horaires. Au lieu de heure pleine, heure creuse, vous avez bleu, blanc, rouge. Il me semble que bleu, c'était le tarif le plus faible, blanc, intermédiaire, et rouge, c'était vraiment cher. Et en plus, vous ne connaissiez pas à l'avance, c'est-à-dire pour toute l'année, les moments où ce serait bleu, blanc ou rouge. Donc vous appreniez, ou vos parents apprenaient, de la veille pour le lendemain, à quel moment ça allait coûter cher. Et ça, le problème, c'est qu'il y a des gens qui se retrouvaient un peu coincés parce qu'ils avaient dans leur maison pas trop de flexibilité, la possibilité de décaler certains usages. Donc quand c'était rouge, ils subissaient, ils payaient très cher. Et au total, quand ils faisaient le calcul à la fin de l'année, ça pouvait être plus cher que d'avoir souscrit à une offre vraiment constante au tarif de 15 centimes. Donc ça, voilà, c'est tout ça pour dire que ça pose des questions. Les gens, pour qu'ils signent, il faut qu'ils aient certaines conditions, certains usages chez eux qui favorisent les gains qu'ils vont faire avec ce contrat. Après, alors la façon dont ça pourrait se passer, c'est que chaque jour, donc on l'a dit, il n'y a pas trop de problèmes d'énergie, mais il peut y avoir des problèmes de puissance. Donc l'enjeu, ce sera essayer de déplacer une partie de la consommation des utilisateurs dans le temps. Et ça, la façon dont il faut le déplacer, malheureusement, on ne sait pas la prévoir très longtemps à l'avance. Si vous voulez, par exemple, mettre la consommation en face de la production renouvelable, les prévisions, même à l'échelle de la France, à J-1, sont largement meilleures qu'à J-7. Donc il y a fort à parier qu'on va aller à J-1, inciter les gens plutôt qu'à J-7, où on fait des grosses erreurs sur la façon dont on va donner de l'information aux consommateurs. Par exemple, pour le véhicule électrique, ce qui pourrait se passer, c'est que vous envoyez une incitation et on va jouer un jeu entre différents consommateurs flexibles. Donc là, je vais prendre pour ma présentation l'exemple des véhicules électriques. Donc on va jouer un jeu entre différents véhicules électriques dont l'objectif va être de trouver un équilibre au sens où les gens vont déplacer une partie de leur consommation, le véhicule électrique, d'une manière coordonnée. Donc il va y avoir jeu parce que s'il n'y avait pas de jeu, ce ne serait pas coordonné. Et dans ce cas-là, potentiellement, on peut arriver à des solutions qui ne sont pas bonnes. L'exemple le plus simple à comprendre, c'est si vous voulez favoriser par exemple une consommation pendant la nuit. Vous mettez un tarifeur plein heure creuse le même à tous les consommateurs. Et ce qui peut se passer, c'est que tous les gens allument directement à 22 h tous leurs usages. Et là, vous avez un pic qui, peut-être vu de la France, n'est pas impressionnant, mais localement, par exemple pour le réseau que j'ai présenté tout à l'heure, le réseau de distribution, si tous les consommateurs déplacent tous leurs usages à 22 h, vous avez un pic, ils ne se sont pas coordonnés, et ça peut être très mauvais pour un certain nombre de métriques. Donc il faut se coordonner, et le jeu en est le moyen. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va jouer, vous avez un jeu, et on va jouer une dynamique de meilleure réponse. Alors là, est-ce que ça, vous l'avez vu passer? Ou meilleure réponse, vous l'avez sûrement vu, non? Alors l'idée, c'est que vous allez appliquer de manière itérée les meilleures réponses. Vous allez fixer les décisions de tous les joueurs sauf un. Ce joueur fixé, il va calculer sa meilleure réponse, il va prendre une décision, il va l'annoncer à tout le monde. Et du coup, on va passer au joueur numéro 2, qui aura les décisions fixées pour tout le monde et qui remettra en cause la sienne avec son problème de meilleure réponse. Et on va itérer comme ça. Et ce qui se passe souvent, alors dans certains jeux, ce n'est pas le cas tout le temps, mais c'est que on va se poser la question si cette mise à jour itérée des stratégies par meilleure réponse va converger quelque part. Donc ça, c'est une question qui souvent va nous mener à l'équipe de Nash, parce que si plus personne n'a intérêt à changer sa décision, c'est-à-dire que tout le monde est déjà en meilleure réponse, ça veut dire qu'on est, ça je pense que vous l'avez vu, du coup, on est à l'équilibre. Donc on applique cette dynamique pour trouver un équilibre souvent. Donc ça va nous permettre de trouver une configuration stable, au sens où dans ce cas pratique, aucun consommateur flexible, aucun véhicule électrique n'aura intérêt à décaler son profil de charge. Il sera en une décision qui constitue avec les autres un équilibre de Nash. Donc ça veut dire que ça, par exemple, vous pouvez le jouer, il est 17 h, les véhicules rentrent chez eux, et on peut jouer alors de manière a priori numérique, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être des systèmes d'application où vous allez rentrer chez vous, vous allez dire bah, moi je repars demain à 8 h, je vais faire 30 km comme la plupart des Français. J'ai toute la nuit pour charger, j'ai pas trop de contraintes chez moi. Les différents véhicules peuvent rentrer ce type de contraintes. Il y a une plateforme, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, mais qui permet d'itérer sur la prise de décision des différents véhicules. Et vous allez arriver, via cette application, à trouver une décision pour chaque véhicule. On va trouver à 17 h et quelques secondes, parce que c'est des mécanismes qui sont très rapides, un profil de consommation pour chaque véhicule électrique. Et après, en temps réel, ce sera très simple. L'idée, c'est de suivre, tant qu'il n'y a pas de problème, en gros, on suivra le profil qu'on a trouvé en sortie de cet algo. Ça, c'est clair, cette distinction entre ce qu'on appelle offline, hors ligne en français, et en ligne. Donc, on dit offline parce qu'on n'est pas vraiment dans le temps réel. Quand vous faites des décisions online, ça veut dire que le temps passe, donc il est 17 h 05, il y a des nouvelles informations qui viennent et vous mettez à jour les décisions. Là, ce n'est pas ce qui se passe. Vous êtes à 17 h sur la base de toutes les informations que vous avez. De prévision, vous lancez un algorithme, ça vous fixe une trajectoire de décision pour toute la nuit, et ensuite vous la suivez sans la remettre en cause. Voilà, donc typiquement, dans le cas du véhicule électrique, vous pouvez appliquer directement ce profil de charge quand le véhicule est branché. Alors, il y a une question qui reviendra à la fin de l'année, sûrement, on l'évoquait tout à l'heure, mais si vous calculez tous les jours ce qui vous est reversé pour cet effort de décalage de la consommation, et qu'à l'échelle d'une année, ça ne vous rapporte pas grand-chose, il y a fort à parier qu'à la fin de l'année, La plupart des gens signent un contrat de base où il n'y a pas d'application, il n'y a pas de mécanisme de flexibilité, c'est très simple. Alors le malheur côté système électrique, c'est que cette flexibilité est perdue, mais c'est aussi du fait d'une peut-être d'une mauvaise définition des incitations et des bonus qu'on reverse aux consommateurs flexibles. Mais cette question, elle n'est pas à négliger parce que la plupart du temps, dans ce domaine de recherche, les gens disent, OK, on a 50 consommateurs flexibles dans le quartier. En fait, on ne les a pas. Pour l'instant, ils n'existent pas. Donc, il faut les convaincre via des mécanismes économiques incitatifs de participer à ce type de mécanisme. L'idée, c'est que je vais essayer de le relier avec certains concepts de théorie des jeux, vous montrer comment c'est fait dans ce cas d'application particulier. Donc là, on l'a dit, la question qui se pose, c'est est-ce que cette dynamique de mise à jour des décisions va converger? Donc ça, c'est une question assez naturelle dès que vous appliquez un algorithme pour essayer de coordonner différents agents. Ici, on va se poser la question, si la dynamique a convergé, est-ce que le point qu'on a obtenu, qui est un équilibre de Nash, est-ce qu'il est efficace pour le système? Donc efficace pour le système, ça peut vouloir dire, est-ce qu'il permet de, pour faire simple, gagner de l'argent du côté du système électrique? Est-ce qu'il permet aussi, de gagner un petit quelque chose du côté des consommateurs? Ça, on va essayer de le mesurer au point particulier qui est l'équilibre de Nash. Parce qu'on l'a trouvé avec la dynamique. Voilà. Et ensuite, la question qu'on va se poser plutôt à la fin de l'année, elle est plutôt, est-ce que les gens vont plutôt gagner de l'argent, quand on mesure ça par rapport aux efforts que représente la flexibilité de consommation? Et le deuxième point qui peut être important quand même, c'est l'aspect d'équité. Si, par exemple, vous discutez avec votre voisin, vous avez signé le même contrat, vous avez la même application, vous avez l'impression de faire deux fois plus d'efforts que lui et vous gagnez deux fois moins d'argent. Là, il y a quelque chose qui ne va pas, a priori, ça ne va pas satisfaire les gens pour s'engager dans ce genre de mécanisme. Donc c'est une notion qu'on voit aussi arriver dans certaines classes de jeux, le fairness, l'équité, et qui, selon nous, est importante dans ce genre de modèle. Je vous montrerai quelques résultats numériques, où on a essayé de jouer ce mécanisme dans un cas au Texas. Alors pourquoi le Texas? Ce n'était pas notre volonté première, mais c'est du fait de. Vous avez aussi toute une dynamique d'open data dans le système électrique, et elle est beaucoup plus en avance aux États-Unis. Donc vous avez des jeux de données assez incroyables, notamment au Texas, où vous avez des centaines de foyers pour lesquels vous voyez les différents usages minute par minute. Donc si vous êtes intéressé par ce genre de sujet, voilà, je l'ai mis là. Vous avez Pecan Street, qui est une super base de données, où vous voyez les usages d'électricité, mais aussi les usages de l'eau. Et peut-être d'autres choses encore, à l'échelle d'un certain nombre de foyers au Texas. Donc on a pris ces données. Ce qu'on a fait, c'est qu'on en a déduit alors ce qu'on appelle une consommation non flexible. Donc non flexible, c'est la partie sur laquelle vous n'allez pas vouloir faire d'efforts. Donc typiquement, faire la cuisine, vous allez continuer à faire la cuisine au moment qui vous plaît, regarder la télé, c'est la même chose. Vous éclairez, vous chauffez, c'est pareil. Donc on a mis dans cette catégorie tous les usages, sauf le véhicule électrique. Alors, juste point de vue de notation, je pense que vous êtes familier avec ça, mais vous avez compris qu'on a un profil de puissance qui est un vecteur, donc le temps est discret. Vous avez les indices de 1 à grand T pour les pas de temps. Donc ça, c'est le vecteur, la façon dont vous consommez les usages non flexibles dans une maison, à l'échelle du quartier. Donc là, dans L0, vous avez toutes les consommations non flexibles d'un quartier texan. Donc vous sommez tout le chauffage, etc., du quartier texan, sur des données réelles. Ce qu'on a fait aussi, c'est que pour mesurer si c'est efficace pour le système, il faut définir une fonction de coût. C'est assez naturel dans les modèles. Alors cette fonction de coût, chez nous, elle va dépendre de la consommation totale du quartier. Donc là, c'est un peu l'équation fondamentale de ce modèle. Donc vous prenez la partie non flexible et vous allez sommer. Donc les indices I ici, c'est plus des moyens de production, mais c'est des consommateurs. Donc là, c'est toutes les consommations flexibles du quartier. Donc c'est la somme des consommations sur les consommateurs I dans le quartier. Donc là, vous obtenez la consommation totale du quartier à l'instant T. Et c'est ça qui va vous dire est-ce que ça coûte cher pour le système électrique de produire et de transporter l'électricité à cet ensemble de consommateurs. Donc ça, on l'a vu, en fait, c'est assez naturel, mais si vous avez un pic de consommation qui est important, vous appelez des nouveaux moyens de production qui coûtent plus cher, donc c'est naturel que ça coûte plus cher. C'est le cas aussi pour les réseaux. Les réseaux, vous avez des pertes qui augmentent avec la consommation totale. Vous avez des effets, par exemple, de vieillissement de certains matériaux sur les réseaux qui dépendent de la consommation totale. Donc vous avez cette fonction cTilde qui vous donne à partir de la consommation totale combien ça coûte au système de fournir cette consommation LT. Alors, dans le cas d'application ici, on a pris LIT étant le profil du véhicule électrique I à l'instant T, la consommation à l'instant T. Alors, naturellement, vous avez des contraintes. Quand on dit flexibilité de consommation, on ne va pas vouloir tordre l'usage final de l'électricité, à savoir que pour le véhicule électrique, le but, c'est de rouler. Donc, vous avez un besoin en énergie qui correspond en fait à une distance que vous voulez parcourir. Donc, si vous voulez faire 30 km, ça nécessite entre 5 et 10 kWh. Vous allez demander à minima qu'à la fin de la nuit, vous ayez 10 kWh dans votre véhicule électrique. Vous avez aussi une période où vous pouvez consommer ou pas. Dans le cas du véhicule électrique, c'est assez simple. C'est quand le véhicule est branché, il peut consommer. S'il n'est pas branché, il ne peut pas consommer. Donc, à certains moments, vous allez forcer cette consommation à être nulle parce que le véhicule électrique, il n'est pas branché. Et vous avez aussi des puissances qui sont disponibles pour votre usage. Donc, typiquement, le véhicule électrique, on discutait des gammes de puissance qu'il peut atteindre. Il a une puissance max qu'il peut consommer. Il a parfois aussi une puissance min. Dans le cas du véhicule électrique, c'est des enjeux de rendement de la charge. Si vous chargez à des toutes petites puissances, il y a des pertes qui sont énormes. Donc, en fait, ce qu'ont fait les constructeurs, c'est qu'ils ont bloqué en dessous d'une certaine puissance. Ils interdisent avec ce qu'on appelle le BMS, le Battery Management System. Ils interdisent de consommer. Donc, on a dit 3 kW, c'était un peu la puissance max à la maison. En dessous de 1, 1,2 kW, vous ne pouvez pas charger. Donc, il faut aller choisir entre 1,2 et 3 kW. Donc, ça, c'est une contrainte aussi qu'on voit souvent autour de ces usages flexibles. Je vais vous montrer quelques résultats sur deux mécanismes différents. Donc, l'idée, c'est vous avez compris qu'on a un coût à l'instant T pour le système pour produire et transporter une consommation LT. L'idée, c'est d'en donner une image au consommateur flexible. Parce que si vous ne donnez pas du tout d'image de ce que représente le coût du système, le consommateur, il ne sait pas dans quelle direction rendre flexible sa consommation. Donc là, il y a deux mécanismes qui permettent de donner cette image au consommateur. Le premier, on l'appelle proportion par jour. Donc là, vous voyez que si vous prenez cette somme, vous avez le coût total vu du système pour assurer la consommation LT sur l'ensemble de la nuit ou sur l'ensemble de la journée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le répartir proportionnellement à l'énergie consommée. Donc, ici, ce que ça veut dire, c'est que si moi, I, je consomme EI pour faire 30 km avec mon véhicule, je vais prendre une part de ce coût-là en proportion de ce que consomme l'ensemble des véhicules dans le quartier. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si mon voisin consomme deux fois moins que moi avec son véhicule électrique, en termes de fonction de coût qu'il va voir, ce sera deux fois moins que moi. C'est clair pour vous ou pas? Ça peut paraître complètement fou comme manière d'inciter les usagers, mais en fait, ça existe déjà, par exemple, dans les copros. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais pour les ascenseurs. Les ascenseurs, typiquement, il y a un coût qui dépend de l'usage. Si vous montez tout le temps en ascenseur, la copro va devoir payer un coût important pour l'électricité, pour faire monter l'ascenseur, la maintenance, etc. Et parfois, dans certaines copros, c'est réparti proportionnellement à l'étage auquel vous habitez. On se dit que si vous êtes au sixième, quelque part, si vous prenez l'ascenseur pour monter 6 étages de plus que le voisin du premier, c'est logique que vous payez plus de la facture de l'ascenseur. Donc c'est exactement le même raisonnement, sauf qu'au lieu de prendre l'étage ici, on prend l'énergie qu'on consomme avec un usage comme le véhicule électrique. Alors, d'un point de vue mathématique et intuitif, ce qui va se passer, c'est que tout le monde a quand même à peu près le même coût en tête. Tout le monde va chercher à minimiser cette quantité. Donc, pour reprendre l'analogie avec l'ascenseur, si vous voulez payer moins, ce que vous pouvez faire, c'est monter à pied. Mais si vous montez à pied, non seulement vous allez gagner sur votre facture, 6 fois plus si vous êtes au sixième, mais il y a aussi votre voisin du premier qui va gagner. Parce que lui aussi, dans sa facture, il y a ce terme-là qui est commun à tout le monde, qui intervient. Donc là, ce qui va se passer, c'est que quand vous mettez à jour, par exemple, avec une dynamique de meilleure réponse, les décisions des usagers, ils vont tous viser à peu près la même, enfin, ils vont tous viser la même direction, à savoir minimiser la somme de ces coûts. Et donc, à la fin, ça va être assez facile de s'accorder. Voilà. Mais en revanche, ce qui va se passer aussi, qui n'est pas forcément bon en termes d'équité, c'est que vous, si vous êtes au sixième et que vous montez tous les jours à pied, vous allez gagner sur votre facture, mais peut-être que le voisin du troisième, il monte jamais à pied. Et il va gagner aussi beaucoup. Alors qu'on aurait pu dire, bah, si vous faites plus d'efforts, vous gagnez plus proportionnellement à vos efforts. Voilà. Donc c'est un peu, à la fois l'avantage, c'est qu'on vise tous le même point. Le désavantage, c'est que peut-être il y a un petit biais en termes d'équité. Alors juste en termes de notation, ici, vous voyez que BI, c'est pour bill, c'est la facture de I. Elle va dépendre de sa décision LI, mais aussi de L-I. Donc ça, c'est les autres, en théorie des jeux. Je pense que vous avez vu, cette notation. Une alternative, c'est de faire rentrer ce terme proportionnel à l'intérieur de la somme. Donc là, l'idée, c'est que, à l'instant T, si ça coûte cher de fournir LT, ceux qui, à ce moment-là, font l'effort de ne pas consommer beaucoup, ils vont le voir directement sur la facture. Donc si moi, I, je déplace mes LIT au moment où ce coût est faible, eh ben, je vais le voir tout de suite sur ma facture. Si mon voisin ne fait pas l'effort, il ne le verra pas. S'il consomme toujours au moment où c'est coûteux pour le système, il ne le verra pas. Est-ce que la différence, au-delà de l'équation, est claire pour vous? Ce qui va se passer là, c'est que on n'a plus exactement la même cible. Autant là, la cible était claire, autant là, la cible est celle-là, ce terme-là, il dépend des joueurs, vu qu'on a fait passer cette quantité à l'intérieur de la somme. Donc peut-être dans certains cas, ça va être plus dur de se coordonner, mais on imagine qu'en termes d'équité, ça peut être plus efficace. Parce que vous rémunérez tout de suite les personnes qui font l'effort pour le système au bon moment. Ok. Alors maintenant, je vais vous expliquer succinctement quelles sont les étapes typiques qu'on essaie de passer en tant que chercheur de théorie des jeux sur ces modèles. Sachant que c'est un modèle parmi d'autres, là, c'est pour vous donner un petit peu l'idée du cheminement, mais il y a vraiment des tas de modèles de ce type-là. Donc la première chose qu'on fait, c'est de définir un jeu. Alors pourquoi il y a un jeu? Essentiellement, vous l'avez vu, à partir du moment où on a une facture qui dépend de ma décision mais des autres, c'est pas un problème d'optimisation. Pour savoir combien je vais gagner ou je vais payer, il faut voir ce que font les autres. Donc ça mène à une interaction qui est un jeu. Donc on définit un jeu sous forme normale. Les joueurs, ce seront les consommateurs flexibles. L'ensemble des actions stratégie, donc en reprenant le cas du véhicule électrique, vous avez, donc pour le joueur I, il définit un profil sur l'ensemble des créneaux. Il a des contraintes sur les puissances qu'il peut consommer à chaque instant. Donc là, vous pouvez voir deux effets. En gros, si vous mettez les deux bornes à zéro, par exemple quand le véhicule n'est pas branché, vous imposez la consommation à être nulle. Donc vous arrivez à traduire les moments où le véhicule est branché ou non à l'aide de cette contrainte. Il y a une deuxième chose que vous pouvez capter avec ce type de borne, c'est le fait que vous avez un contrat à la maison, et quand vous sommez les usages comme tous les autres usages et le véhicule électrique, vous devez être en dessous du contrat, donc de 6 kW, dans la plupart des cas. Donc ici, si vous mettez comme borne supérieure 6 kW moins ce que consomment tous les autres usages, vous avez la bande de puissance qui reste, qui peut être consommée par le véhicule électrique. Donc ces bornes, ça permet aussi de prendre en compte ces contraintes fondamentales à l'échelle de foyers particuliers. Et vous avez naturellement le besoin en énergie de l'usage. Donc quand vous sommez sur tous les pas de temps d'une nuit, par exemple, vous devez mettre assez d'énergie dans la batterie pour que le véhicule roule le lendemain. La fonction de coût, alors là, on va mettre deux termes. Le premier terme, c'est ce qu'on a discuté sur la slide précédente, à savoir l'image du coût système que vous allez intégrer à votre fonction de coût, donc soit proportionnelle à l'intérieur ou à l'extérieur de la somme. Et il y a un deuxième terme, parce qu'on n'est pas complètement fou, on se dit que les gens, ils vont pas prendre des décisions seulement pour le système, il reste toujours des contraintes. Typiquement dans le cas du véhicule électrique, s'ils veulent partir peut-être à 20 h ce soir parce qu'ils vont aller chercher quelqu'un au sport, par exemple, c'est une contrainte personnelle qu'il faut voir dans le problème. Et donc là, vous avez un deuxième terme, qui est une fonction FI qui dépend que du profil LI. Donc autant là, ce terme-là, il va vous permettre de vous coordonner. Celui-là, il est individuel, donc il dépend que de vous. Vous allez pouvoir mettre le fait que vous n'avez pas le même tarif de l'électricité que votre voisin, le fait que vous avez des préférences temporelles pour consommer à certains moments, par exemple, pour votre véhicule électrique. Petite remarque méthodologique, mais comme a priori vous n'avez pas entendu trop parler des contraintes couplantes, là, en théorie des jeux, j'imagine que vous avez vu seulement des modèles où vous avez un couplage à travers le coût, ou la fonction d'utilité, donc l'utilité dépend de vous, mais aussi des autres. Il y a aussi des cas où vous avez non seulement le coût, mais aussi les contraintes qui dépendent des autres. Et ça, alors typiquement, si vous écrivez cette contrainte, vous faites la somme des consommations des joueurs I à l'instant T. Ça va être plus petit qu'une borne, qui peut traduire par exemple la capacité qui peut entrer à l'intérieur d'un réseau de distribution, sur les départs qu'on voyait tout à l'heure. Donc ça, vous voyez que ça crée un couplage dans les décisions qui peuvent être prises par les joueurs. Là, ici, cet ensemble, il est indépendant des autres. Il n'y a pas L-I. Si vous rajoutez cette contrainte, ça devient indépendant des autres. Donc non seulement vos fonctions de coût dépendent de ce que font les autres, mais aussi les contraintes dépendent des autres. Donc c'est des classes de problèmes qui sont plus compliquées. Donc dans les résultats que je vais vous présenter par la suite, ça c'est mis de côté. Mais fondamentalement, ça existe dans le système électrique. Donc il y a des gens qui travaillent à intégrer ça dans ces modèles. Comment on va trouver l'équilibre? Parce que souvent on définit un jeu, mais si on veut en faire quelque chose en pratique, un point qui peut être intéressant, c'est l'équilibre de Nash. Et comment trouver cet équilibre? Bah, il y a une façon de faire qui est d'appliquer des algorithmes pour se coordonner. Et ici, c'est ce qu'on a fait avec la dynamique de meilleure réponse. Donc là, je vous l'ai mise en pseudo-algo. C'est pas si compliqué que ça en a l'air. La partie importante, en fait, est là. C'est exactement le problème de meilleure réponse. Donc là, vous minimisez sur le profil LI, donc c'est le problème de meilleure réponse du joueur I, en fixant la décision de moins I des autres joueurs à l'itération K. Donc vous résolvez le problème de meilleure réponse compte tenu de la décision des autres à l'itération K. Et ensuite, vous allez choisir un des vecteurs qui vous donne le minimum dans ce problème. Donc c'est juste une petite subtilité. Il peut y en avoir plusieurs. S'il y en a plusieurs, bah, vous prenez au pif. Vous prenez au pif et ça vous donne la décision à l'itération K plus 1 pour le joueur I. Si vous êtes capable de faire ça, vous faites juste une boucle sur les joueurs. Donc par exemple, dans l'ordre des joueurs, le premier remet à jouer en premier, ensuite le deuxième, etc. Et vous faites une deuxième boucle qui est celle des itérations. Tant qu'un certain critère n'est pas vérifié, vous continuez, vous mettez à jour le joueur 1, le joueur 2 jusqu'au dernier. Et vous continuez à voir où vous mène cette dynamique. Alors typiquement, les critères d'arrêt, ils peuvent regarder la distance entre les décisions prises par l'ensemble des joueurs à l'itération K et à l'itération K plus 1. Si vous ne bougez pas beaucoup en termes de décision, bah, c'est un critère pour traduire la convergence. Donc là, par exemple, vous mesurez l'écart entre le profil de décision à l'itération K et K moins 1. Si cette quantité est grande, vous continuez. Si c'est petit, vous vous arrêtez. En pratique, il y a toujours aussi un garde-fou parce qu'on ne peut pas imaginer qu'on n'arrive pas à donner une décision à nos véhicules électriques là, qui attendent pour se charger. Donc ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a un garde-fou, il y a un nombre d'itérations maximum, et si on n'a pas satisfait le critère en termes de déviation des décisions, on arrête quand on a fait grand K itération. Voilà, donc ça c'est la dynamique de meilleure réponse. Est-ce que son principe général est clair pour vous? Vous voyez les étapes? Quelques petites remarques, ça c'est une version qu'on appelle séquentielle parce que les joueurs mettent à jour leurs décisions de manière séquentielle, chacun leur tour. Donc au moment où vous mettez à jour votre décision, vous voyez exactement ce qu'ont fait les autres avant dans l'algorithme. Il y a aussi une version simultanée où tous les joueurs, donc on enlève cette boucle, tous les joueurs vont remettre à jour leurs décisions en même temps. En gros, l'intuition qu'on peut avoir, c'est que ça peut aller plus vite, mais parfois vous pouvez avoir des effets de cyclage. C'est-à-dire que deux joueurs vont échanger leurs décisions parce qu'ils ne voient pas exactement ce qu'a fait l'autre joueur au dernier moment. Ils sont en train de mettre à jour leurs décisions en même temps. Donc c'est juste une petite subtilité, mais il y a parfois des analyses pour savoir est-ce qu'il vaut mieux en temps réel lancer un algo séquentiel ou simultané selon le temps par exemple dont on dispose avant de donner une décision aux différents agents. Aussi, une autre remarque qui est plus en termes de complexité mais qui va rejoindre aussi le temps d'exécution de cet algorithme. En gros, le point qui bloque, c'est la résolution de ce problème. Après, vous allez avoir une boucle sur les joueurs. Donc, typiquement, pour faire simple, la complexité de cet algorithme, c'est le nombre d'itérations fois le nombre de joueurs fois la complexité de ce problème. Si vous résolvez ce problème très facilement, cet algo va marcher très bien. Si vous passez du temps dans la résolution de ce problème, ça peut être plus complexe. Voilà. Donc, c'est deux remarques sur cet algo. Aussi une remarque plus pratique pour appliquer cet algorithme, et là il faudra revenir juste à cette équation. Vous n'avez pas besoin de connaître le détail des décisions de tous les véhicules électriques dans le quartier. Donc là, c'est par rapport plutôt à la préservation des données, des choix individuels. comme votre coût, il dépend seulement de la consommation totale, qui est la somme de ce que font les autres, mais en agrégé, et de votre décision, vous ne voyez pas exactement le profil de tous les véhicules électriques du quartier. Vous voyez la somme des profils des autres véhicules du quartier. Donc cette structure agrégée, elle peut être importante pour défendre ce genre de mécanisme, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas forcément capable de remonter à toutes les décisions individuelles des consommateurs. Et il y a plein d'algos, de mécanismes qui passeront pas, c'est sûr, parce que il y a certains régulateurs, comme la CRE, qui vont dire, si vous êtes capable de voir exactement ce que veulent faire tous les consommateurs pour leurs usages, on ne veut pas de ces algos, et les gens ont le droit de préserver un certain anonymat autour de ces consommations. Donc ça, c'est un point positif, mais là, qui est dû à cette structure agrégée des coûts dans le modèle. Le principe, alors la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils convergent? La réponse est oui. Et alors, je vais peut-être m'arrêter là-dessus sur un petit exemple pour vous illustrer comment ça se passe. Est-ce que vous, ok. Alors, j'attends le recommencement, mais je vais vous expliquer déjà ce qu'il y a sur les axes. Donc, vous voyez, cet algo, on l'appliquerait potentiellement pour une nuit donnée. Donc là, vous avez une nuit en abscisse. En ordonnée, vous avez la consommation d'un quartier où vous aviez 30 foyers. Donc, 30 foyers, vous avez en bleu. La façon dont les 30 foyers texans ont consommé pour de vrai. Donc vous voyez un pic qui est d'ordre de 40 kW. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas consommé tant que ça. On est à 1, quelque chose kW par foyer. Et ce que vous allez voir progressivement, c'est la courbe rouge qui est la somme de la courbe bleue, donc les usages non flexibles, et de la charge des véhicules électriques. Donc elle se déplace au fur et à mesure, et c'est juste l'exécution de l'algorithme. Donc c'est la courbe de consommation totale du quartier au fur et à mesure de l'algorithme. Donc ce qu'on peut voir au début, ça va repartir. Normalement. Voilà. C'est qu'au début, les véhicules ils vont choisir de charger tout de suite. Donc vous avez un pic qui correspond à l'arrivée des véhicules électriques qui se branchent, qui voudraient se mettre à charger à puissance max. Et vous lancez l'algorithme. Au fur et à mesure, les véhicules électriques vont mettre à jour leurs décisions. Et vous arrivez progressivement à combler le trou de consommation nocturne du quartier. Ça vous semble logique? C'est en fait, bon là c'est un cas hyper simple parce que vous avez vu que la fonction de coût, elle dépend de la consommation totale du quartier. Ici vous avez un creux, donc ça veut dire que le coût est inférieur. Là tout de suite, le coût va exploser et donc vous avez intérêt à déplacer collectivement la consommation des véhicules électriques du quartier. Alors juste, il y a peut-être des petits pics. Dans certains cas, je ne sais pas si c'était le cas de cette simulation, mais vous avez des véhicules qui ne peuvent pas s'arrêter de charger. Donc ça veut dire qu'ils chargent selon des rectangles. Ils vont charger à une puissance constante et ils ne vont pas s'arrêter. Donc typiquement, ces contraintes-là, on peut les voir sur le problème final. Vous allez avoir des petits pics qui sont dus à certaines contraintes individuelles des gens, qui ne peuvent pas se rendre flexibles, complètement déformer de manière continue leur profil. Et donc ça donne de manière imagée, ce qui pourrait se passer si on appliquait cet algorithme. Et ce que vous voyez, c'est qu'à la fin, ce profil rouge, c'est ce qu'on obtiendrait si les véhicules suivent l'issue de l'algorithme qu'ils auraient pu obtenir avec une application. Oui, tout à fait, exactement. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que, en fait, pour comparer les deux, il faudrait prendre l'aire sous la courbe bleue et l'aire entre la courbe bleue et la courbe rouge. Ouais, alors, bah oui, ça rejoint la discussion qu'on avait. En gros, les Français, c'est 30 km à peu près par jour. Là, c'est des foyers texans, donc je ne connais pas très bien leurs habitudes de consommation, mais les Français, c'est à peu près 30 km par jour, ça vous fait de l'ordre de allez, 10 kW s'il fait froid, par exemple, plutôt 5 s'il ne fait pas froid, parce que en gros, le chauffage dans un véhicule électrique va augmenter pas mal la consommation que vous avez. Si vous mettez 10 kW, vous pouvez être entre 20 et 25 kW par jour par foyer. Donc on est plutôt à un facteur 1,5 en France. Rajouter la charge des véhicules électriques, c'est 1,5 en termes d'énergie. Donc l'aire qu'on devrait voir là, dans le cas français, ferait 1,5 de cet aire-là. Il y a aussi un autre aspect qu'il faut voir, c'est que là, on a mis 30 véhicules électriques, il me semble, pour 30 foyers. Il est possible qu'on ait plutôt au début que 5 véhicules électriques pour 30 foyers. Donc ça va diminuer cet aire parce que du fait qu'on n'a pas beaucoup de véhicules électriques. Mais voilà. Mais c'est aussi le véhicule électrique, c'est un exemple parmi d'autres. Ce qu'on pourrait lire de manière plus générale, c'est ici, la partie flexible qui peut être déplacée, donc véhicule électrique plus chauffe-eau, plus machine à laver, versus la partie qui ne bouge pas, qui serait en bleu. Alors, donc, on a appliqué cet algo. Ça nous permet d'obtenir un profil de consommation pour chacun des véhicules électriques qui participent à l'algorithme ou d'autres usages. Alors, maintenant, pourquoi en fait on sait théoriquement que ça va converger? Donc, il y avait l'intuition tout à l'heure, si vous vous souvenez, il y avait deux modèles. Il y avait le modèle où on vise tous le même coût et on se le répartit proportionnellement à l'énergie, et le modèle où la proportion est à l'intérieur. Donc, quand on vise tous le même coût, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle un jeu de potentiel. Donc ça, je ne pense pas que vous l'ayez vu, mais je vais vous donner l'idée de manière schématique. On dit qu'un jeu est de potentiel si vous avez une fonction phi qui est indépendante des joueurs, et ça, c'est fondamental, telle que si vous, en tant que joueur i, vous déviez entre li et li', alors que les autres joueurs ont une décision fixée l-i, alors le signe que vous avez pour votre déviation de coût est le même que ce que vous avez en prenant les mêmes arguments dans la fonction phi. Donc ce que ça veut dire, cette propriété, c'est que si chacun des joueurs, pour chaque joueur, s'il dévie d'une décision LI à une décision LI', en signe, ça va être vu par la fonction phi. Et comme la fonction phi, elle est la même pour tous les joueurs, comme vous, dans la dynamique de meilleure réponse, vous allez vouloir minimiser votre coût, la fonction phi va diminuer. C'est valable pour tous les joueurs. Et si vous avez des arguments pour dire que phi, elle ne peut pas diminuer à l'infini, bah vous savez nécessairement que votre algorithme il va terminer, parce que vous ne pouvez pas faire décroître phi jusqu'à l'infini. Voilà, donc ça c'est l'idée générale. Après, l'enjeu, souvent, c'est de prouver cette propriété. Là, dans le cas où vous avez le modèle avec les proportions par l'énergie en dehors de la somme, le potentiel est assez simple. On peut oublier ce terme pour faire plus simple, mais le potentiel, c'est ça. Tout le monde cherche à minimiser cette quantité. Parce que les proportions que vous mettez en dehors de la somme, c'est des paramètres qui sont figés. Donc en fait, tous les joueurs, les décisions qu'ils prennent, c'est exactement comme s'ils minimisaient cette quantité. Donc si vous observez cette quantité au fur et à mesure de l'algorithme de meilleure réponse, elle va toujours décroître. Et si par exemple cette quantité, elle a une belle forme de quadratique avec un minimum, bah vous savez qu'elle ne peut pas décroître à l'infini. Vous savez qu'elle va atteindre un minimum. Et à ce minimum, les joueurs n'ont plus intérêt à changer de stratégie. Donc voilà, c'est le rôle du potentiel. Petite remarque, comment on obtient ce terme-là en plus? En gros, si vous rajoutez des termes individuels, ça va rien changer au sens collectif. Ça va rien changer à la notion de potentiel. Je vous passe les détails pour vous montrer autre chose. Le message, c'est qu'on a aussi cette propriété de potentiel dans l'autre mécanisme. Donc, vous passez les proportions à l'intérieur de la somme, avec LIT sur LT, et vous conservez la propriété de potentiel, mais il y a quand même une condition, c'est que vous ayez des coûts qui soient quadratiques. Donc ça, c'est un choix qui est fait par les calculs des chercheurs, mais c'est un choix qui a du sens quand même, parce que si vous vous rappelez l'empilement des coûts au début, par exemple les coûts marginaux de production, c'est linéaire par morceau. Souvent, ce qu'on peut faire, un bon modèle pour une fonction linéaire par morceau, c'est une fonction quadratique. Donc, dans les classes de fonctions qui modélisent relativement bien les effets du système électrique, on a cette fonction, ce cas particulier, qui est intéressant ici pour avoir la propriété de potentiel. Voilà, donc le message au-delà de ces résultats théoriques, c'est que l'algorithme que je vous ai présenté va converger. Donc, on va trouver un profil de décision pour chacun des véhicules électriques, chacun des consommateurs flexibles dans le quartier. Voilà. Le point de convergence, donc j'ai déjà expliqué, je vais passer rapidement, mais c'est un équilibre de Nash, parce que si individuellement plus aucun des joueurs n'a intérêt à dévier, c'est exactement la définition d'un équilibre de Nash. Petite subtilité théorique, c'est que si vous avez un ensemble de décisions qui est fini, un nombre fini de décisions, par exemple si vous avez des rectangles de charge que vous pouvez commencer à 10 instants seulement, vous avez 10 décisions, vous allez atteindre un équilibre de Nash exact. Si maintenant vous avez un ensemble de décisions qui est continu, c'est un epsilon équilibre de Nash, notion que vous avez peut-être abordée dans votre cours ou non. Ok, très bien. Alors on va passer. Nash, vous connaissez, je vous passe la définition. Voilà. Alors juste, mais ça, j'imagine que vous le savez, ça garantit une stabilité individuelle. Ça ne garantit pas que si vous vous arrangez avec votre voisin et que tous les deux vous changez vos décisions simultanément, vous ne pouviez pas faire mieux tous les deux. Donc l'équilibre de Nash, c'est une garantie théorique pour de stabilité individuelle, pas collective. Vous pourriez vous mettre d'accord avec deux ou trois de vos voisins et gagner tous en changeant tous. Voilà. Donc c'est et ça, c'est d'autres classes de jeux. Vous avez par exemple des jeux coopératifs qui permettent de d'adresser cette question. Voilà. Alors, autre point que je vais passer très rapidement, mais on s'est prouvé que le point, l'équilibre de Nash qu'on va atteindre est unique, existe déjà et est unique. Ça, alors, pourquoi c'est important? D'un point de vue appliqué, l'idée c'est que si vous avez plusieurs points, vous savez pas trop où votre algorithme va vous mener, et notamment vous pouvez pas quantifier est-ce que ce point est bon ou pas en regard des métriques qui vous intéressent. Donc l'existence et l'unicité, c'est parfois un beau problème pour les chercheurs, mais ça peut être aussi important pour l'application de ce genre d'algorithme. Voilà, donc à nouveau, il y a la restriction à la classe de fonction quadratique dans le cas du modèle où vous avez les proportions à l'intérieur de la somme temporelle. Voilà. Ça, je l'ai montré. Juste un autre aspect qu'on regarde souvent, c'est est-ce que c'est rapide? Parce que typiquement, si on veut donner une décision rapidement aux différents véhicules électriques du quartier, il faut que l'algorithme se termine rapidement. Et là, on a un effet en fait qui est assez typique de la dynamique de mes réponses. Dans certains problèmes, notamment la classe des jeux de potentiel, c'est que la vitesse de convergence se fait de manière exponentielle avec le nombre de cycles de la dynamique de meilleures réponses. Alors juste cycle, c'est une itération en fait, c'est la mise à jour par tous les joueurs de leur décision une fois. Donc là, vous avez tous les joueurs ont mis à jour deux fois, là, ils ont mis à jour 12 fois. Là, vous avez la différence entre les décisions pour deux itérations successives pour les joueurs. Et c'est en abscisse log, donc vous voyez un effet. Là, c'est linéaire, donc c'est-à-dire que c'est exponentiellement rapide au nombre de cycles. Donc ça peut être aussi important. On peut se dire répondre en quelques minutes, c'est pas grave, mais ce qui peut se passer, c'est que comme vous lancez votre algo à 17 h sur la base de prévisions, s'il y a des choses qui se passent pas du tout comme vous aviez prévu dans vos prévisions, vous pourriez avoir envie à 18 h de relancer l'algo. Et là, si vous dites aux gens, attendez, dans vos décisions de consommation pour 5 minutes, ça leur plaira pas. En revanche, si votre algo il tourne en 1 seconde, ça pourra passer, quoi. Donc la rapidité, c'est clairement un point fondamental au moment de défendre ce genre de mécanisme. Voilà. Numériquement, alors on l'a un peu vu sur la simulation tout à l'heure. Ici, vous avez dans le même jeu de données, ce qui se passe donc pour les foyers texans, vous avez en clair la consommation non flexible un jour donné. Donc là, c'est une journée complète. Et vous voyez où va être placée la partie flexible. D'abord dans un cas où vous mettez un tarif on-off, donc heure pleine, heure creuse en France. Vous voyez ce qui se passe, c'est que la plupart des consommations flexibles vont être mises en dehors des périodes pleines. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il reste quand même une partie résiduelle de la consommation flexible pendant les périodes pleines. La raison, c'est que vous avez des contraintes sur ces usages qui font que vous n'êtes pas toujours capable de placer toute l'énergie flexible en dehors des périodes qui coûtent cher. Donc ça, c'est ce qu'on obtiendrait avec un mécanisme déjà existant, heure pleine, heure creuse. Et ce qu'on a en dessous, c'est la même chose avec le mécanisme journalier, donc les pondérations en dehors. Vous voyez qu'on reproduit à peu près la même chose, sauf qu'on a quand même une partie pendant les périodes pic qui est moindre. Donc voilà, c'est typiquement des indicateurs qui nous intéressent de voir à quel point un mécanisme ou un autre peuvent induire un déplacement de consommation dans les périodes qui sont favorables pour le système. Donc là, on compare ça sur les profils de consommation totaux. Maintenant, je vais vous présenter une notion qui est l'efficacité. Donc on a un algo, on arrive à un équilibre. Est-ce que cet équilibre est efficace? C'est important de se poser cette question avant de vouloir appliquer cet algo. Et on va le mesurer avec le prix de l'anarchie. Peut-être que vous l'avez vu pendant votre cours. Donc l'idée, c'est que vous avez un jeu, potentiellement vous avez plusieurs équilibres, et vous allez calculer cette quantité qui est le ratio entre le coût maximum que vous pouvez avoir à un équilibre sur le coût minimum que vous pouvez avoir. Donc le coût minimum, ça correspond à une situation centralisée. Comme si vous aviez un planificateur bien intentionné qui donnait les décisions à tous les véhicules électriques, tous les consommateurs flexibles du quartier. Donc si on est capable de résoudre ce problème efficacement, c'est ce qu'il y a de mieux pour le système, parce que c'est le problème d'optimisation qui traduit votre coût avec toutes les contraintes. Donc nécessairement, c'est ce qu'il y a de mieux. Maintenant, ça peut être intéressant d'aller chercher plutôt des équilibres avec des mécanismes où les gens gardent leurs décisions localement, gardent leurs données localement. Et dans ce cas-là, on va mesurer combien on perd à un équilibre, au pire, par rapport au coût social qu'on aurait obtenu avec ce planificateur centralisé. Donc, mathématiquement, cette quantité, elle est plus grande que 1, parce que ça, c'est le coût minimum qu'on peut obtenir sur l'ensemble des possibles. Et l'objectif pour des designers de ce genre de mécanisme, c'est de rapprocher autant que possible ce coût total d'un équilibre du coût total social minimum qu'on pourrait avoir. Donc plus on arrive à rapprocher la valeur du POA de 1, mieux c'est pour le mécanisme. Alors après, la question qui se pose, c'est quel coût on prend pour le coût total, quelle mesure d'efficacité on va se donner. Est-ce que c'est un coût social? Donc vous prenez en compte les coûts du système plus les coûts individuels, qui peuvent traduire des préférences individuelles. Est-ce que vous prenez que le coût système dans cette métrique? Là, c'est plus, disons, une question de régulateur, de designer à cette échelle. Mais en tout cas, dans les deux cas, vous pouvez étudier cette quantité et donner des messages à ces gens qui définissent les règles. Voilà, j'ai dit, c'est plus grand que 1. Et le but, c'est de rapprocher au maximum de 1. Et alors, ce qu'on peut montrer, justement, on va chercher une borne qui rapproche au maximum de 1 ce prix de l'anarchie dans nos mécanismes. Et ce qu'on peut montrer, ce sera mon dernier résultat théorique, c'est que dans le cas où vous avez les proportions à l'extérieur de la somme temporelle, donc tout le monde vise à minimiser la somme des C de T, L de T, cette borne, elle vaut 0. Si vous prenez comme métrique de prix de l'anarchie la somme des C de T, L de T. Donc ça veut juste dire qu'en fait, les proportions EI sur somme DEJ à l'extérieur, elle ne change pas la quantité que vous allez minimiser fondamentalement dans votre problème de meilleure réponse. Chacun agit exactement comme s'il cherchait directement à minimiser la somme des C de T, L de T. Donc si c'est ça votre métrique d'efficacité, bah, l'algo de meilleure réponse il va vous donner un point qui vous donne une efficacité 100% au sens un prix de l'anarchie qui vaut 1. Dans l'autre cas, c'est plus vrai, parce que si vous gardez toujours comme métrique d'efficacité les coûts système, ils ne sont pas directement alignés sur les objectifs individuels. Donc dans ce cas-là, ça demande un peu plus de travail. Et alors ça, c'est bon, je vais passer là-dessus, mais on peut trouver une borne qui est théorique. Et juste, elle est mauvaise, au sens où, c'est aussi un jeu de chercheur assez classique, vous avez la borne et vous regardez numériquement où vous êtes par rapport à la borne. Et celle-là, elle est très mauvaise par rapport à ce qu'on observe numériquement. Là, numériquement, on voit qu'on perd que 0,1% au sens du coût système quand on applique ce mécanisme sur les données texanes. Voilà. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a encore du boulot sur la borne. Après, ça dépend qui achète ce travail. Est-ce que c'est si c'est des designers de mécanismes en pratique, si vous simulez sur les données qui les intéressent, ils vont peut-être acheter votre mécanisme indépendamment du fait que la borne ne soit pas exceptionnelle. Voilà. Je vais m'arrêter sur une dernière figure. Vous avez peut-être gardé en tête qu'il y a aussi un autre objectif qu'on peut avoir autour de ces mécanismes, c'est est-ce qu'ils sont équitables entre les gens qui y participent. Donc là, on a tracé, sur les données texanes encore une fois, la performance qu'on obtient en termes d'inefficacité. Donc vous voyez le prix de l'anarchie moins 1. Donc ici, vous avez efficacité parfaite. Là, vous avez une perte d'efficacité de 20%. Et en ordonnée, vous avez l'inéquité. Donc plus c'est haut, plus c'est inéquitable. Donc vous avez donné de l'argent à des gens qui n'ont pas forcément fait d'efforts. Et on a tracé pour différents mécanismes. Donc celui-là, c'était avec les proportions à l'extérieur de la somme par jour. Et là, les proportions à l'intérieur de la somme. Et ça, c'est des tarifeurs pleine heure creuse. Et vous avez 30 jours. Donc vous avez un marqueur par jour. D'accord ? Donc là, vous voyez les triangles, c'est les 30 jours simulés avec des tarifeurs pleine heure creuse. Ce que vous voyez, c'est qu'en termes d'efficacité, vous perdez entre 10 et 15%. Là, vous avez le marqueur avec du gras qui représente la moyenne. Et en termes d'inéquité, c'est 3%. Maintenant, ce qui nous a intéressé, nous, c'est de comparer les carrés et les ronds, les deux mécanismes que je vous ai présentés. Et vous voyez qu'en termes d'efficacité, les deux sont très bons. Vous êtes très proche de 0% de perte d'efficacité. En revanche, en termes d'équité, il y a une différence significative. Vous voyez que les carrés sont répartis de manière assez large sur l'axe des ordonnées. Donc grosso modo, c'est-à-dire que le mécanisme des carrés, avec la proportion en dehors de la somme, est plus inéquitable que le mécanisme des ronds, qui est avec la proportion à l'intérieur de la somme. Donc voilà, après, nous, on donne ce graphique à ceux qui ensuite ont les manettes pour aller vers un mécanisme qu'on veut équitable ou efficace ou les deux. Voilà, c'est juste pour vous donner un peu la chaîne, un exemple d'application d'un modèle de théorie des jeux à une application qui est en vogue et qui pousse la flexibilité de consommation dans le système électrique. Je vous laisse la parole une ou deux minutes, soit tous ensemble, soit à la chaîne si vous devez partir, mais si vous avez des questions. N'hésitez pas, ou à me contacter par mail, hein, si vous voulez, par la suite. Merci.